Dans la théorie classique, enfin classique actuelle de l'évolution, on affirme que c'est par une série de mutations que les espèces se seraient différenciées pour aboutir à l'homme. Est-ce que c'est aussi votre avis?
Personnellement, je ne le crois pas, mais je ne vous donne là qu'un avis personnel. La plupart des biologistes pensent en effet que l'évolution s'est faite à coup de mutations, c'est-à-dire de variations germinales quelconques, variations qu'aurait ensuite triées la sélection naturelle. C'est ce qu'on appelle la théorie néo-darwinienne de l'évolution. La discussion de cette théorie nous entraînerait trop loin. Remarquez que je l'écarte pour ma part, et j'écarte également la théorie lamarckienne, c'est-à-dire adaptation du corps aux circonstances extérieures et transmission des caractères à la descendance. J'écarte donc les deux théories classiques de l'évolution. Que mettez-vous à la place, me direz-vous? Je mets simplement un immense point d'interrogation.
Un grand point d'interrogation, et pour répondre à nos questions, nous avons le privilège d'avoir ce soir au téléphone Patrick Thor. Patrick Thor, bonsoir.
Bonsoir.
Là, vous êtes philosophe, linguiste, théoricien des sciences, comme l'a dit Loïs. Vous êtes directeur et fondateur de l'Institut Charles Darwin International, chercheur au Muséum National d'Histoire Naturelle. Vous êtes directeur du Dictionnaire du Darwinisme et de l'Évolution, directeur de publication de l'édition savante en 35 volumes des œuvres complètes de Darwin, auteur de plus de 50 ouvrages, L'effet Darwin, Darwin et la religion, Darwin et le marxisme à paraître. Bref, vous êtes le spécialiste de Darwin, et on vous remercie en tout cas de nous accorder votre temps pour en parler avec nous ce soir. Et peut-être pour préciser un petit peu ce débat, on aimerait savoir quelles étaient les thèses qui étaient communément admises sur l'homme avant que Charles Darwin propose sa théorie de l'évolution des espèces.
Bien, écoutez, pour faire une réponse aussi simple que possible et en même temps sans la moindre originalité, ce qui était généralement admis était que les espèces vivantes, suivant la théorie biblique, avaient été créées séparément par un acte de création indépendante d'une intelligence rationnelle, surnaturelle, toute puissante, qui était celle d'un être divin. Bien. Alors ça, c'est bien entendu ce que vous trouverez dans tous les articles, dans tous les résumés journalistiques un petit peu de ce débat qui va avoir lieu à partir de la publication de l'Origine des espèces, ouvrage qui en 1859 a évidemment renversé cette explication dominante, mais en réalité, le transformisme en tant que conjecture sur une évolution, comme on dit aujourd'hui, des espèces, a une ancienneté beaucoup plus grande. Il faut rappeler que Darwin a eu un grand-père qui s'appelait Erasmus, et que ce grand-père, qu'il n'a jamais connu autrement que par ses écrits, était lui-même, à partir de 1794 pour être précis, un défenseur de cette...
C'était une famille de précurseurs, en fait. Hein.
Alors, il y a eu Erasmus Darwin, il y a eu avant lui d'autres naturalistes qui ont hasardé une hypothèse transformiste, et il y a eu Lamarck, bien entendu, en France à partir de 1800. Et
alors, on comprend bien la révolution qu'a faite Darwin au sens propre, hein, dans son époque et avec ses écrits. Vous vous êtes lancé, vous, dans la retraduction complète de ses œuvres.
En français.
C'est bon, une grande entreprise. Est-ce que c'est pour cesser les mauvaises interprétations qu'on peut faire de ses thèses?
Alors écoutez, quand on entreprend un travail aussi gigantesque qui durera certainement beaucoup plus longtemps que ma vie, c'est qu'il y a des raisons à cela. Et la raison, c'était d'une manière dominante que Darwin n'a jamais été lu en France, véritablement. Il n'a pas été lu et il a été extrêmement mal traduit dans la seconde moitié du 19e siècle. Pour les ouvrages qui ont été traduits, ils ont été en général d'une façon très approximative et souvent fausse. Il fallait donc reprendre ce travail sur de véritables bases scientifiques et linguistiques. Donc, par exemple, l'édition de l'Origine des espèces que nous avons sortie chez Champion, enfin chez Slatkin d'une part pour la grande collection et chez Champion dans les deux classiques de poche, est une édition qui n'a pas d'équivalent à l'heure actuelle, tout simplement parce qu'elle explique, d'abord elle commence par une introduction de 230 pages qui explique presque mois après mois la genèse de l'origine des espèces, mais aussi parce que la traduction est quelque chose qui a été infiniment médité et qui est, je crois, d'une profonde exactitude scientifique aujourd'hui. Les enjeux, c'était aussi et surtout peut-être pour moi de faire apparaître le lien très particulier qui existe entre la biologie de Darwin et sa théorie de la civilisation. Et là, nous touchons au grand malentendu qui n'est pas encore tout à fait dissipé dans les têtes.
Alors justement, c'est la question qu'on se pose, Patrick Thors, est-ce que la sélection naturelle qu'a théorisé Darwin, est-ce que cette sélection naturelle s'applique à l'homme qui vit en société ?
Bon, alors, d'abord, il faut comprendre que le mécanisme sélectif est celui qui, pour Darwin, a guidé l'ensemble de l'évolution et que l'évolution humaine s'inscrit, comme il l'expliquera dans la filiation de l'homme en 1871, s'inscrit donc dans ce mécanisme, est produite en quelque sorte par ce mécanisme central. Bien. Cela ne signifie absolument pas que la sélection naturelle éliminatoire, qui est la forme archaïque de la sélection naturelle, celle qui fonctionne dans l'univers animal et végétal, s'applique à l'homme parvenu à ce que Darwin appelle l'état de civilisation, qu'il va définir au contraire comme le fruit de la sélection, d'une part de la rationalité, des capacités rationnelles, et d'autre part des instincts sociaux qui précisément sont des instincts altruistes, des instincts de coopération, et qui tendent, grâce à leur efficacité, combinée avec les éléments d'augmentation du pouvoir rationnel de l'homme, eh bien, grâce à leur efficacité, permettent donc un succès évolutif du groupe humain qui est évidemment préférable à l'état de guerre généralisé que l'on pouvait connaître dans une humanité pré-civilisée.
C'est ce que vous appelez, Michel Thors, d'ailleurs, l'effet réversif de l'évolution.
Oui. Là, ce que je résumerais, suivant la formule bien connue aujourd'hui, la sélection naturelle, par la voie des instincts sociaux, sélectionne la civilisation qui s'oppose.
Mais alors, vous parlez, c'est une question intéressante, cette question de naissance de civilisation, donc avant la civilisation et après la civilisation. Quand est-ce qu'il se fait ce basculement ? Quand est-ce que la civilisation humaine devient civilisation ?
Voilà, alors votre question est en elle-même un symptôme, c'est-à-dire que vous me demandez
d'assigner
un point à partir duquel cesserait la non-civilisation et commencerait la civilisation. Or, c'est précisément cela qui est impossible en évolution. C'est-à-dire que nous vivons dans ce que j'appelle une métaphysique des commencements absolus, et c'est précisément cette métaphysique des commencements absolus qui est totalement éradiquée, en quelque sorte, par Darwin, qui va montrer qu'il y a des antécédents à tout. Et je renvoie encore une fois à ce livre extraordinaire qui s'intitule « La filiation de l'homme » et dont je parle, qui est le sujet de l'effet Darwin. Je ne parle quasiment que de ce livre dans l'effet Darwin. Mmh. Eh bien, dans cet ouvrage, il va montrer que, dans le règne animal, dans les comportements animaux, notamment dans les parades nuptiales, au cœur de tout ce qui va constituer son explication de ce qu'il va nommer la sélection sexuelle, eh bien, il y a des primordiaux, des comportements que nous considérons comme spécifiquement humains et qui appartiennent non seulement à notre Olympe, si je puis dire, mais qui constitue les fondements de nos valeurs morales. Par exemple, l'altruisme, le sacrifice de soi, et tout ce qui va constituer effectivement la sortie de l'homme hors de son égoïsme primitif.
Alors, pardonnez ma question de non-connaisseuse de Darwin, mais ça peut paraître une idée provocatrice de dire que la spécificité de l'homme, donc de l'espèce humaine, est d'être solidaire et altruiste.
Non. Ce que Darwin explique, c'est que nous n'avons pas inventé dans l'évolution ni l'altruisme qui commence avec la formation de la première triade sexuelle et reproductive, à partir du moment où, par exemple, un mâle se bat pour conquérir une femelle, à partir du moment où une mère, dans le règne animal, est capable de mettre sa vie en danger pour protéger sa progéniture, il y a là un primordium fondamental de ce qu'on peut appeler un comportement altruiste. Tout cela, bien sûr, sera interprété par d'autres gens qui ne sont certainement pas parmi les gens que je défendrai le plus aujourd'hui, qu'on appelle les sociobiologistes, qui ont dit beaucoup d'âneries sur la question. Mais il est clair qu'effectivement, si nous sommes capables d'un dévouement altruiste allant jusqu'au sacrifice de soi, dont Darwin rappellera que selon Kant, il est la forme la plus élevée, dit-il, de la moralité humaine, eh bien, c'est que quelque chose nous en rend capable à partir de notre origine, et il n'y a aucun scandale à repérer dans notre évolution des traits qui puissent être précisément annonciateurs de ce que va produire l'épanouissement humain au niveau de la civilisation. Donc tout cela, bien sûr, doit être relativisé dans la mesure où il serait faux de mettre sur le même plan l'héroïsme animal et l'héroïsme humain, d'accord, par exemple, puisque l'héroïsme animal, je pense à la conduite de ce singe mâle qui est allé sauver un petit qui était menacé par une bande de chiens. Le récit se trouve dans la filiation de l'homme. Et pourquoi Darwin n'hésite-t-il pas à employer le terme très anthropomorphique selon certains d'héroïsme ? Bien tout simplement parce qu'il y voit, lui, en termes évolutifs, un primordium de ce que nous, dans notre langage évolué, nous nommons l'héroïsme.
Alors la question qu'on se pose, Patrick Thor, c'est aussi la question de la temporalité. Est-ce que la vitesse avec laquelle se fait l'évolution aujourd'hui, la modification par l'homme de son propre environnement, que ce soit à travers l'alimentation ou la pollution, pour citer quelques exemples, est-ce que cette évolution très rapide de l'environnement ne se retourne pas contre l'homme lui-même, qui ne sera plus capable de s'adapter à l'environnement qu'il a lui-même modifié ?
Alors, bon, premier point, l'homme civilisé se définit comme un transformateur de la nature. Il est tout à fait clair que, comme je dois souvent le réexpliquer, lorsqu'il y a, imaginons, une baisse très brutale du niveau global des températures, à l'échelle de notre vie, nous pouvons réagir, nous, en mettant une couche supplémentaire de vêtements, alors qu'une espèce animale, eh bien, devra au fil des millénaires voir son poil pousser et faire confiance à ceux qui ont la plus belle fourrure pour survivre à ce changement de climat. Donc il y a là une différence fondamentale. L'homme adapte son environnement et ne s'adapte plus comme doit le faire une espèce animale ou végétale. Cela dit, ce n'est qu'un schéma, bien entendu. D'autres facteurs entrent en jeu. Effectivement, l'homme a acquis un pouvoir de destruction de son milieu qui le met en danger en tant qu'être naturel. Et là, je rappelle que, si Darwin n'est pas allé jusqu'à anticiper de tels événements, il était absolument conscient des méfaits sur l'homme, précisément, des exactions de l'homme lui-même. Et il le fait dans la filiation de l'homme.
D'ailleurs, la filiation de l'homme, au passage, est vraiment un ouvrage qui est très peu lu de Darwin aussi, et que vous conseillez peut-être aux auditeurs de lire pour mieux comprendre la pensée darwinienne.
Il est épuisé, et il va reparaître donc dans une nouvelle édition chez Slepkin et chez Champion, mais il va falloir être un peu patient, parce qu'il y a des rythmes de publication et parce que la mise au point de ces éditions savantes sont extrêmement lentes, bien entendu.
Nous vous remercions, Patrick Thor, en tout cas, d'avoir répondu à nos questions. L'évolution et la théorie de l'évolution selon Darwin est quelque chose de très complexe, d'après ce qu'on entend, et merci pour vos éclaircissements. Nous rappelons que vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, comme notamment Darwin et le darwinisme, le que sais-je, aux éditions PUF, et Darwinisme et marxisme, apparaître en février prochain aux éditions Arquet. Nous vous remercions et nous vous souhaitons une bonne nuit de l'évolution, si vous restez à l'écoute. Voilà, je vous remercie, Patrick Thor.
Bonne nuit à vous, à bientôt. Au revoir.